Code de philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 9 décembre 1999, à Saint-Gelas.
Il y a une petite question. Vous avez dit, la dernière fois, qu'il n'y a pas de morale, donc possibilité d'une réflexion philosophique, comprenons, sur l'acte moral. Sans l'amour spirituel, sans l'amour d'amitié, sans l'amour d'amitié fondamentalement, sauf pour le chrétien, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le chrétien peut télescoper l'amour d'amitié ou même l'amour spirituel? Parce qu'il y a le Christ. C'est comme la morale avant le Christ de l'Ancien Testament. Il repose sur la loi. Je fais la théologie morale ou la philosophie morale de l'Ancien Testament à partir de la loi. La loi donne le commandement de nos activités morales. Et Jésus nous fait comprendre qu'il dépasse la loi. Et c'est son amour d'amitié qui me donne la qualité de mes actes chrétiens. Vir evangelicus, c'est celui qui est tout entier relatif au Christ. Si je suis relatif au Christ, tous mes actes sont chrétiens. Mes actes ne sont chrétiens que quand ils sont relatifs à Jésus. S'ils ne sont plus relatifs à Jésus, ils ne sont plus chrétiens. Or, l'acte chrétien est éminemment moral. Vous voyez, il ne repose plus sur mon expérience comme l'éthique philosophique qui repose sur mon expérience. L'éthique chrétienne repose sur le mystère du Christ et l'enseignement du Christ. L'éthique de l'Ancien Testament prépare l'éthique chrétienne. Oui. Autrement dit, pour le chrétien, quelle est la mesure de son activité humaine ? Chrétienne par le fait même. Il ne peut pas être humain sans être chrétien, le chrétien. Il est chrétien, et parce qu'il est chrétien, il est éminemment humain. Et donc, mon éthique chrétienne repose sur le mystère du Christ. Et mon lien avec le Christ, par la foi, l'espérance et la charité. Or, le Christ est l'ami des hommes. Si le Christ est l'ami des hommes, ma vie chrétienne repose sur cette expérience, au-delà de cet amour spirituel que j'ai. Et si j'aime le Christ dans la foi, dans l'espérance et la charité, on a l'avantage, quand on fait un cours, on n'écoute plus. On n'écoute plus l'autre. Je suis avec vous, je n'entends pas ces bruits qui viennent changer l'attention. Et alors, évidemment, si ma morale chrétienne repose sur l'amour que j'ai pour le Christ, l'amour que j'ai pour le Christ implique un amour spirituel. La charité implique un amour spirituel. Ma charité ne repose pas sur les passions. Donc, c'est un acte spirituel éminemment, c'est un amour spirituel éminent. Donc, le chrétien n'est pas dispensé de l'amour spirituel en aimant le Christ. Au contraire, Jésus est l'ami des hommes. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Continuons. Je crois que j'étais resté à ce problème, le passage du bien à la fin. Et je me pose la question, parce que ça, il faut se la poser, à quel moment naît la liberté? C'est très important, parce qu'on dira, vous voyez, quand on fait une bêtise, quand les hommes font des bêtises, Et qu'on a des avocats qui sont là pour les sauver de leurs bêtises. Quelle est leur argumentation la plus nette? C'est de montrer que cet acte n'est pas libre. Et on fait la même chose pour les mariages. Quand on veut l'annulation du mariage, on montre que le mariage n'est pas existant. On a montré qu'il y avait eu des influences extrinsèques qui ont fait que les jeunes mariés ne se sont pas vraiment mariés librement. Ils ont subi une influence. Et c'est les arguments qu'on prend aussi pour la vie religieuse. Il a fait profession parce qu'il aimait tellement le permettre. Et comme il aimait le permettre tellement, il n'aurait pas fait profession, le permettre en serait mort. Alors, vous voyez, alors à ce moment-là, ces professions, je dis ça pour les frères comme pour les sœurs, hein, c'est la même chose. S'il a fait profession par amour pour sa maîtresse de vice, est-ce que c'est encore une profession religieuse? Non. La maîtresse de novice peut aider, peut soutenir, mais ce n'est pas elle qui remplace le Seigneur. Et c'est toujours, c'est très curieux, mais c'est toujours ce genre d'argument qu'on prend. Et c'est parce que, alors c'est important de voir à quel moment naît votre liberté. Et dire, je n'ai jamais pensé. Quand on parle de l'âge de raison, c'est savoir à quel moment naît la liberté de l'enfant. Quand il est dans le berceau, il vient de naître, vous croyez qu'il est libre? Non, sûrement pas. Vous croyez quand il pleure parce qu'il a eu la faim, que ses pleurs sont libres? Non, elles sont instinctives. À quel moment la liberté apparaît? Alors, le bien, quand je connais le bien, je suis attiré par ce bien. C'est instinctif. On est attiré par telle personne. C'est un amour normal, naturel, et je peux dire instinctif. Il n'est pas libre. À quel moment sera-t-il libre? C'est quand je considère que ce bien est ma fin. Alors là, il y a nécessairement un acte intellectuel qui me permet de dire que cet acte est libre. Je choisis ce bien pour être ma fin. Et je le choisis pour être ma fin. La fin est toujours choisie dans ma vie. Ce n'est pas instinctif. Non. C'est plus ou moins libre, vous voyez. En ce sens que je dis, je me suis fait religieux parce que j'ai raté tous les autres métiers, il ne restait plus que ça. Il ne restait plus que ça. C'est la seule chose. Et quand celui qui dit à Jésus, je ne peux pas mendier, je ne peux pas travailler, je ne peux pas... Alors qu'est-ce qui reste? Je peux faire qu'une seule chose, c'est ça. Et quand on fait ça, c'est encore un acte libre. Il est très diminué, parce qu'il s'impose à moi, mais il est libre parce qu'il y a eu ce raisonnement, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Ah, je peux faire ça. Et c'est encore libre. Mais c'est une liberté diminuée. Mais ça reste encore libre. Donc, il y a un passage extrêmement important au point de vue éthique, c'est le passage du bien à la fin. Le bien spirituel s'impose à moi. Je ne suis pas libre d'aimer le bien spirituel. C'est normal. Mais il y a un moment où la liberté joue. Est-ce que ce bien spirituel, je le choisis pour être ma fin? C'est-à-dire, pour être ce qui va finaliser tout le reste. C'est ça, choisir pour la fin. C'est lui qui va finaliser tout le reste. Donc, ordonner tout vers ce bien spirituel. Et ce bien spirituel, à ce moment-là, devient fin, cause finale. Qu'est-ce que c'est que la cause finale? La cause finale, c'est toujours un bien. Mais un bien qui est aimé pour lui-même et non pas pour autre chose, et un bien qui est aimé de façon telle qu'il est capable d'ordonner toutes mes autres activités. Il me finalise. Et ça, c'est très important de comprendre que la fin implique une liberté, une bonne volonté libre. Et c'est dans ce sens-là qu'au fond, toutes les philosophies, alors là ça va très loin, toutes les philosophies qui n'acceptent pas la finalité, surtout dans l'ordre éthique, sont coupables d'avoir refusé la finalité. Une finalité, ça se refuse, puisqu'on l'accepte librement, donc on la refuse librement. Tandis qu'aimer le bien, ça c'est autre chose, ça s'impose. C'est très très important ça, au point de vue des conseils qu'on peut donner. Et quelqu'un qui par exemple est marié, rencontre quelqu'un d'extraordinaire. C'est la femme de ma vie. Il dit ça spontanément. Ah non, il y en a une autre avant, elle a pris la place. Alors, à ce moment-là, il réfléchit. Il dit, non, je ne peux pas, parce que je me suis engagé avec quelqu'un d'autre. Je l'aime. Oui, mais j'ai aimé. Vous l'aimez parce que vous l'avez rencontré, que vous la connaissez. Et maintenant, vous êtes libre de la suivre ou de ne pas la suivre. Vous êtes libre. Vous pouvez très bien dire, non, je ne peux pas, je suis marié. Et donc, l'aimer parce qu'elle s'impose à vous comme un bien. Alors, vous serez prudent de ne pas vouloir la voir trop souvent. Parce que si vous la voyez trop souvent, cet amour va dire « Ah, ça me finalise. » Attention. Vous avez librement choisi qu'elle vous finalise. Vous avez librement vu quelqu'un qui vous... L'aimer, c'est autre chose. L'aimer, c'est l'aimer cette personne qui est bonne. Je l'aime. Je ne peux pas ne pas l'aimer. Je l'aime. Mais je l'aime avec cette chose que je la relativise à un autre premier amour. Donc elle n'est plus ma fin. Puisque justement, ce qui relativise la fin, ou ce qui donne à la fin son absolu, c'est de considérer que ce bien est aimé pour lui-même et qu'il est aimé comme le premier bien. Pour nous chrétiens, le premier bien, c'est le Christ. Et donc, toutes les autres personnes qu'on aime, on les aime pour le Christ. Le Christ est ma fin. Alors, je peux à partir de là aimer différemment, suivant qu'elles sont plus ou moins proches de Jésus. Oui, c'est très très important dans notre vie, ça, de bien comprendre que la fin est choisie librement comme un bien qui s'impose à moi, que j'accepte et à partir duquel tous les autres biens seront aimés en fonction de ce bien. Alors, il y a donc ce passage du bien à la fin. Pas de morale sans avoir choisi une fin et sans l'aimer d'un amour spirituel. Alors vous voyez, quand je dis qu'il n'y a pas de morale sans un amour spirituel, je pourrais peut-être préciser sans avoir choisi ce bien spirituel comme ma fin. Parce que s'il n'y a plus de finalité, il n'y a plus de morale. Quand vous vous laissez simplement aimer j'aime celui-ci aujourd'hui, demain j'aimerais l'autre, ce troisième. Voilà. Il peut y avoir toujours un amour spirituel, mais il n'y a pas le choix de la fin. À ce moment-là, il n'y a plus de morale. Donc la morale va naître à partir d'un choix, d'un bien qu'on considère comme absolu, comme mon bien absolu auquel je vais refaire tous les autres. Alors il y aura toujours, voyez, dans la fin que je choisis, quelque chose qui s'impose à moi. C'est que cette fin est mon bien. Et en tant qu'il est mon bien, cet amour s'impose à moi, au-dessus de mon choix. Puisque c'est à cause de cet amour que j'ai choisi. Et cela se peut parce que justement cet amour spirituel étant spirituel peut coïncider avec un choix. Le choix, c'est quelque chose de très particulier. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a un choix libre à l'égard de ma fin. Et que la liberté apparaît à partir de ce choix libre. Et plus cette fin est choisie comme fin, plus elle est libre. Donc, le bien, la fin. La fin est saisie comme un principe de tout un ordre donné. Qu'est-ce qu'il y a encore ? J'ai vu que j'aime ce bien qui peut être ma fin, et je le choisis comme ma fin. Et choisissant ce bien comme ma fin, à ce moment-là, j'organise toute ma vie en fonction de cette fin. Organiser ma vie en fonction de cette fin, c'est évidemment essayer de voir comment, dans ma vie, je peux atteindre cette fin d'une manière qui ne soit plus seulement intentionnelle, mais effective. Alors là, c'est très important aussi de bien saisir cela. Bien saisir que le bien qui m'attire, je désire m'unir à lui, d'une manière ou d'une autre. Mais je désire m'unir à lui, créer ensemble une amitié. Donc, vivre proche de cet ami, si je le peux. Si j'ai choisi Dieu et le Christ comme fin, je choisis une vie qui me permet d'être le plus proche possible de Dieu et du Christ. Et on retrouve quelque chose d'analogue. Tandis que si je choisis, si j'ai aimé une personne et qu'elle est un peu ma fin pour que je puisse devenir l'ami de cette personne, il faut que je choisisse les moyens de pouvoir vivre auprès d'elle, d'être le plus proche possible auprès d'elle. Alors, il y a à ce moment-là un acte très particulier qui est la délibération. Je délibère sur tous les moyens qui me permettront d'être plus proche de ma fin, de pouvoir faire que toute ma vie s'organise autour de cette fin. Et alors je délibère là, il y a une réflexion sur tous les moyens possibles, les moyens. Les choses que je peux choisir, que je peux rejeter. Le moyen, c'est un bien qui est bien en fonction du bien absolu que j'ai choisi comme ça. La délibération porte sur ces moyens. Mais c'est le propre du moyen, vous voyez. Il n'y a pas de délibération au sens strict à l'égard de la fin. Il pourrait y en avoir. Si j'étais tout à fait au point de départ de ma vie morale, mais si j'ai déjà un peu opté pour telle fin, la délibération est dépassée. Tandis que la délibération à l'égard des moyens est toujours présente. Parce que les moyens changent. Et les moyens permettent le passage de l'union affective à l'union effective. Ça aussi, très important. Qu'est-ce que c'est que l'union affective? Qu'est-ce que c'est que l'union effective? Il faut bien comprendre ça. L'union affective, c'est l'union que j'ai à l'égard de la fin comme mon bien, et comme mon bien absolu. J'aime. L'amour à l'égard d'un amour spirituel, l'amour réalise un lien profond et personnel entre le bien que j'aime et moi-même. C'est un lien affectif. En ce sens que quand j'aime une personne, cette personne demeure en moi et moi en elle. Il y a une union affective. L'union affective à l'égard d'une personne que j'aime, c'est l'amour que j'ai pour cette personne qui produit en moi comme une image vivante. Bien. L'union affective peut évidemment se réaliser de diverses manières. Parce que l'union affective peut impliquer des éléments imaginatifs, des éléments sensibles. J'aime un bien toujours existentiel. Je n'aime pas une personne en soi. Donc c'est Pierre, Jacques ou Jean. Parce que cette personne, je l'aime et que je la considère comme ma fin, je l'aime dans tout ce qu'elle est, dans sa sensibilité, dans son corps, dans ses cheveux. Je l'aime telle qu'elle est. Donc il y a des éléments sensibles qui sont présents en acte, qui sont augmentés par l'imagination. C'est pour ça que quand on aime quelqu'un, on commence à l'aimer. Faisons attention que si on s'éloigne de trop et qu'on ne voit plus cette personne, l'imagination va fleurir et l'imagination va permettre ou va empêcher un amour réaliste et va mettre une auréole imaginative autour de celui ou de celle que j'aime. Et cette auréole imaginative peut devenir très dangereuse. Parce que j'idolâtre. J'imagine que cette personne a toutes les qualités possibles, toutes celles que je voudrais qu'elle ait. Et dans mon imagination, je dis, mais oui, elle les a. C'est bien évident. Je désire vérifier si elle l'a. Et là, on voit très bien comment l'amour, engendrant cet amour imaginatif, va de fait commander constamment une certaine expérience à l'égard de cette personne pour voir si cette imagination angélique peut se réaliser, peut devenir un amour extrêmement sain, peut devenir un amour réel. Il y a comme une épreuve, vous voyez. Donc la délibération implique toute cette espèce d'intériorité et d'expérience qu'on fait avec le bien qu'on aime, hein, la personne qu'on aime. Ça implique cette démarche. Et dans cette démarche, c'est toujours diminuer l'abîme qui existe entre l'intentionnalité affective et la réalité. si vous réfléchissez sur votre manière de vous approcher de quelqu'un que vous aimez, la manière dont vous réfléchissez sur les moyens de s'approcher de lui, de le connaître, de l'aimer, on interroge telle personne qu'il connaît, c'est son ami, il va me donner ses renseignements. Parce que je désire savoir si vraiment cette personne m'aime. Alors, la délibération, ça peut durer très longtemps, surtout chez les scrupuleux. Alors là, c'est un fini. À un moment donné, on va vite couper, on va dire, mais non, c'est suffisant maintenant. Passer à l'exécution. Donc, passer au choix. Vous avez assez réfléchi. La délibération, c'est du raisonnement. C'est du côté de l'intelligence. Et voir l'union. Après la délibération, je choisis. Alors, ce qu'il faut préciser dans le choix est d'ordre volontaire et d'ordre intellectuel. C'est les deux. C'est l'acte peut-être qui unit d'une manière la plus profonde l'intelligence et l'affectivité et la volonté. Les deux sont présents. Mais il y a des choix plus affectifs et des choix plus objectifs. On dira ça tout de suite. Il y a des choix plus affectifs et des choix plus objectifs. On comprend ça tout de suite. Dans l'ordre de l'amitié, qui est le choix le plus parfait, c'est quelquefois pas toujours commode à bien voir. Mais dans l'ordre des moyens, on sait très bien. Quand on est fatigué, le tonus de notre vie est un peu bas. On choisit toujours des moyens plus effectifs. Quand on est en pleine santé, on choisit des moyens plus objectifs. Très curieux, ça. Et c'est très intéressant à voir. Le choix de la vie religieuse. Ben, vous l'avez tous vécu, ce choix de la vie religieuse. Il y a eu des éléments affectifs. Une grand-mère. Ah, j'attendais que mon petit-fils puisse entrer dans un... J'ai prié depuis longtemps. C'est toi, une pensée merveilleuse. Je continuerai de prier pour toi. Alors, l'élément affectif de la grand-mère. Des éléments objectifs. C'est quand, de fait, je me dis sincèrement, me connaissant ma faiblesse, ma fragilité, je me dis, il vaut mieux entrer au couvent. C'est plus sûr pour le ciel. Très objectif, ça. Puis il y aura quelqu'un qui dit, oh, mais c'est beaucoup trop dur pour toi. C'est tellement dur la vie religieuse. C'est pas comme naturel. Tu as un tempérament indépendant, très indépendant. Comment la vie religieuse avec l'obéissance pourra te convenir, c'est impossible. Ça ira un moment, parce que tu seras un peu enivré. J'aime tellement Saint-Jean d'Arc. Tout est parfait. Or, c'est pas vrai du tout. Quand tu verras ça de près, tu verras qu'il y a des défauts comme partout ailleurs. Il y a de l'humain partout ailleurs. Donc, à ce moment-là, vous voyez, le choix commence à faiblir. Parce que, objectivement, votre faiblesse, fragilité, existe tout le temps, partout. Alors, quand il s'agit de choix humain, c'est très bien. Quand il s'agit de choix divin, comme la vocation, on comprend que le grand motif pour me décider, c'est de regarder ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut pour moi, et non pas mes capacités, et non pas mes incapacités. Dieu choisit souvent des éléments faibles pour exiger des actes héroïques. Et on se fortifie petit à petit. Alors qu'au point de départ, on est seul. Dieu aime de se choisir des éléments forts, intellectuellement, spirituellement, parce qu'il a besoin d'ouvriers forts. C'est le bon plaisir de Dieu, ça. Et ça, c'est très très important de regarder. Qu'est-ce qui nous permet de juger et donc de choisir? Qu'est-ce qui intervient normalement dans un choix humain et dans un choix divin? Parce que je dois être conscient, je suis conscient de mes choix. Et mes choix révèlent ma personnalité profonde. Je suis conscient. Alors, je vois tout de suite que quand il s'agit d'un choix humain, je sais qu'il y a deux manières d'être choisi. Celui qui est le plus en conformité avec mon affectivité, celui qui est le plus proche de la fin que je poursuis. Donc il y aura deux manières de choisir. Et il faut être conscient de ça. Je choisis le moyen qui m'est le plus de code naturel, parce que je sens très bien ma faiblesse. Je choisis le moyen qui est le plus de code naturel. Je choisis au contraire, et toujours je fais comme ça, je choisis les moyens les plus efficaces, objectivement parlant. J'aurai la force de les accepter. Il y a ce choix qui porte, bien sûr, ce qui est le plus conforme à la fin qui m'attire. Même si c'est très difficile, ça n'a pas d'importance. C'est ce moyen-là que je choisis. Autrement, c'est le moyen qui est beaucoup plus facile. Ce sera plus long, ça, mais c'est plus en code naturalité avec moi. Ça, alors, tout dépend. Si vous regardez le secours de Dieu, ou si vous ne regardez que vos capacités, si vous regardez uniquement vos capacités, tous vos choix seront l'un ou l'autre. Si vous regardez Dieu qui appelle, Dieu qui commande, qui donne ça, alors à ce moment-là, vous ne regardez plus avec la naturalité du moyen. Regarde avant tout ce que Dieu veut. Alors là, vous avez un choix surnaturel. Alors le choix de la vocation est-il naturel ou surnaturel? Alors les tentations, c'est que j'oublie de regarder ce que Dieu veut et je ne regarde plus que mes capacités. Cette vie suffit capable d'amener. Quand j'envoyais de l'extérieur, je disais oui, je pourrais être capable, c'est très beau. Mais quand je suis dedans, et puis ça commence à devenir dur. Et puis on ne comprend pas, je suis seul dans mon espèce, parce que je suis angélique, donc je suis seul dans mon espèce, et ça ne me comprennent pas du tout. Alors je commence à douter. Et enfin, oui, c'est vrai, c'est trop fort, c'est trop grand pour moi, c'est vrai. Ou bien c'est trop absurde pour moi. Il y a différentes manières de s'en tirer. Et, mais j'oublie de regarder ce que Dieu attend de moi. Et le choix, c'est très très important, le choix. Parce que c'est quelque chose qui est tellement profondément humain. Donc, le choix permet de dire, oui, tu es mon ami. Je choisis pour progresser et faire que mon ami, qui était très loin de moi, soit plus. Et je crois que je dois être de plus en plus conscient de mes choix. Et c'est là où la délibération, la réflexion est si importante. Il faut avoir de plus en plus une très grande netteté vis-à-vis des choix. Vous voyez, je peux choisir un ami pour atteindre ce but, c'est-à-dire atteindre un autre ami. Il faut le moyen. Donc, il y a des amitiés qui se situent à ce niveau de choix. Puis il y a des amitiés qui se situent beaucoup plus profondément. Et à l'égard de Dieu, c'est la même chose. Après le choix, quand j'ai choisi, il y a l'exécution. Et bien, ça, c'est pour moi, je vais recevoir pour moi.